rencontre d'Edmond Morel.
Nathalie David-Veil, vous publiez chez Robert Laffont un roman, un livre, un récit, ce que j'appellerais aussi un livre-bibliothèque, tellement il donne envie d'aller voir plus près ceux dont vous parlez, qui sont Freud, Proust, Einstein, Romain Gary, Woody Allen, Albert Cohen et les Marx Brothers. Alors, sous le titre « Les mères juives ne meurent jamais », vous avez adopté un point de vue fort original pour parler de tous ces génies.
Oui, je vous remercie beaucoup. Oui, c'est à la fois un roman, puisque toutes les mères de ces génies se retrouvent au paradis pour parler de leurs fils. Et en même temps, je me suis énormément documentée pour à la fois lire ce qu'ils disaient de leur mère et lire les biographies ou ce qu'on pouvait trouver sur les mères. Il y a plus ou moins de documentation d'ailleurs, mais ce qui m'a intéressée, c'est de les faire dialoguer ensemble sur leurs fils pour savoir si elles avaient donné une même éducation et est-ce qu'il y avait cette idée de je vais te rendre célèbre, mon fils.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la seule qui réponde tout à fait à cet objectif-là est la mère de Romain Gary, puisque on sait que dans son roman La promesse de l'aube, finalement, il commence cette saga que lui a imposée sa mère en lui disant « Tu verras ce que tu vas devenir ou tu seras... »
Oui, tu seras ambassadeur et tu seras écrivain. Mon fils, il n'avait pas eu le choix. Il devait devenir... il a obéi à sa mère. Mais c'est vrai aussi de la mère des Marx Brothers, où Groucho Marx voulait devenir médecin et elle a dit « Rien du tout, tu feras du théâtre ». À son fils Harpo, qui ne savait pas chanter, elle a dit « Ça n'a aucune importance, tu te tairas et personne ne verra la différence ». Et c'est comme ça qu'il a pris ce rôle très comique de muet. Elles ont toutes décidé que leur fils ferait tel ou tel métier ou deviendrait célèbre. Dans le cas de Freud, elle a décidé que ce serait un génie. Elle ne savait pas très bien dans quoi, puisque la psychanalyse n'existait pas, donc elle ne pouvait pas l'imaginer. Einstein allait devenir un génie pour sa mère. En l'occurrence, il l'était. Donc elle a eu de la chance.
Oui, mais alors, si vous voulez, revenons un peu au début du roman. Oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Revenons, si vous voulez bien, au début du roman avec votre personnage central, qui, elle, n'est pas la mère de quelqu'un de célèbre. C'est une femme qui est décédée dans un accident de voiture et qui vit dans l'angoisse de ce que son fils, qu'elle a laissé survivant sur Terre, de son destin, de ce qu'il va devenir.
Mais oui, parce que c'est le paradoxe de ces mères. Elles veulent que leurs fils deviennent des génies. Elles n'ont aucun doute, d'ailleurs, sur leur fils, et en même temps, elles ont très peur que sans elles, ce soit des bons à rien. Donc c'est le cas de mon héroïne Rebecca, qui laisse son fils qui a 18 ans et qui est très angoissée, parce que va-t-il devenir sans elle? Alors elle trouve toutes ces mères de génie au paradis, ce qui la rassure. Elle se dit, si je suis là, c'est que moi aussi, mon fils va devenir quelqu'un de célèbre. Mais en même temps, ça sera elle qui fait le lien et qui pose la question aux autres, comment vous avez fait? Est-ce que j'ai bien fait?
Alors comment vous est venue l'idée de ce personnage-là? Parce que c'est un personnage qui finalement est très, très habile dans votre démarche. C'est-à-dire qu'on apprend sans se rendre compte toute une série de choses sur des personnalités auxquelles le public ne s'intéresserait pas nécessairement de cette manière-là.
Il me fallait un peu un lien entre toutes ces mères. Alors dans la vie, elles ne venaient pas du même pays, ni forcément de la même époque. Et donc j'ai inventé ce paradis que j'ai imaginé comme une maison fantastique pour toute personne, puisqu'il y a tout, de la nourriture, des films, des livres, il n'y a qu'à le demander, c'est là.
Et c'est vrai que c'est pas mal.
C'est pas mal. Et donc, il me fallait un lien pour les faire parler entre elles. Parce que qu'est-ce qu'elles font au paradis? Elles parlent toute la journée, elles s'engueulent,
elles se boudent parfois, l'une et l'autre.
Oui, surtout elles disent « mon fils est bien mieux que le tien », c'est le thème général. Donc c'est une immense conversation par thème, entre toutes ces mères pour essayer de... Et mon héroïne Rebecca essaie de comprendre... D'abord, elle est professeure de français, donc elle connaît bien ses auteurs, et elle essaie de... Et puis elle est très... Voilà, elle essaie de comprendre s'il y a une règle, ou plusieurs. Or, il y a des règles. C'est « tu réussiras, mon fils, tu mangeras bien, tu ne me remplaceras pas, car les pauvres, enfin, les fils ont des vies amoureuses désastreuses. Par exemple, Groucho Marx écrit les mémoires d'un amant lamentable, ce qui donne quand même une idée de qui se faisait de lui-même. Romain Gary dit « On espère retrouver l'amour inconditionnel de sa mère et on ne le retrouve jamais ».
Et donc, il y a aussi d'autres types de réactions, comme celle de Freud qu'on découvre, qui est finalement une sorte de rapport assez haineux, à la limite, à l'égard de sa mère.
Tous, en réalité, parce que cet amour devient étouffant. Et donc, ils veulent s'en débarrasser à tout prix. Woody Allen a cette phrase incroyable qui dit « Très peu de gens survivent à leur mère ». Et il le montre dans plusieurs films de manière absolument désopilante. Il y a, si je peux donner un exemple, dans ce court-métrage qui s'appelle Oedipus Rex, il raconte à son psychanalyste ce rêve qu'il a fait où sa mère est dans son cercueil, il conduit le corbillard. Et la mère râle dans son cercueil en disant « Ne prends pas ce chemin, tu as tort, tu devrais rouler plus vite, roule plus lentement, si ça continue, je n'irai pas au cimetière. » Et il n'en peut plus, il dit « J'aimerais la voir morte. »
C'est vrai que les rapports entre les mères juives, parce que en l'occurrence elles vous avez choisi des mères juives, mais vous avez aussi cette formule très curieuse d'ailleurs sur les mères, enfin très 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 pertinente sur les mères juives, c'est que je ne sais plus à qui elle est attribuée, mais que les mères juives ne sont pas nécessairement des mères et ne sont pas nécessairement juives.
Absolument.
J'aimerais que vous développiez un peu ça.
C'est-à-dire que c'est un adjectif. Hein. Il y a le mythe de la mère juive, la bonne mère adorante qui procure tout ce qu'il faut pour son fils, et donc on peut absolument être un père catholique et être une mère juive. Ça n'a rien à voir. Il se trouve que ce sont des mères juives. Mais elles auraient... Voilà,
Ça aurait pu être un père qui devient une mère juive.
Voilà, ça aurait pu... C'est plus universel que ça, en réalité. Hein. Toutes les mères sont un peu des mères juives, à des degrés différents. Elles l'ont vraiment poussé à l'extrême, c'est-à-dire... avec cette ambition par procuration, où c'est elles qui veulent réussir. Hein. Elles sont toutes, 5 sur 7 sont des exilées. Et donc, la seule chose qu'elles avaient, c'était leur fils, qu'il fallait pousser pour que la vie, leur vie soit utile à quelque chose. Car au moins, elles auraient réussi leur fils. Ce terme même de réussir son enfant est absolument incroyable.
Je reviens à Romain Gary avec la question sur l'identité aussi. Parce que dans le cas de la mère de Romain Gary, elle lui impose, elle lui annonce déjà qu'il va changer d'identité pour exister, non seulement de fonction, non seulement de
profession. Oui, elle lui cherche
profession.
Un nom. Voilà. C'est-à-dire, c'est absolument incroyable. Il s'appelle Roman Cassou au départ et elle dit... non, elle lui cherche des noms pendant beaucoup de temps. Elle veut qu'il devienne français. Déjà, il est russe au départ et donc il réussira en étant français. Et c'est lui qui se trouve le nom de Romain Gary. Et elle n'est pas là quand il l'invente. Donc, je fais en sorte qu'elle soit très vexée, etc. Je ne sais pas en vrai si c'est le cas, mais...
Mais dans le cas de Romain Gary, c'est d'autant plus surprenant qu'on sait qu'il a pris par la suite le pseudonyme d'Émile Ajar pour continuer une carrière littéraire alors qu'il pensait qu'elle était terminée.
Oui, c'est-à-dire qu'il va plus loin encore que sa mère. Il trouve que autant inventer plusieurs existences, vivre plusieurs vies, avoir plusieurs identités, il ne sait... Voilà.
Dites-moi, comment avez-vous choisi les personnalités pour en faire les personnages de votre livre, dans lesquels il n'y a pas que des écrivains, puisqu'il y a les frères, les Marx Brothers, il y a Einstein, et puis les autres sont écrivains, ou enfin Freud, on peut considérer qu'il est en même temps en psychanalyste, mais il a écrit tellement qu'il est écrivain aussi.
Absolument. C'est un peu, au départ, il y avait les textes. Romain Gary avait écrit
La promesse de l'aube.
Merci. La promesse de l'aube. Il y avait le livre de ma mère, oui, d'Albert Cohen. Oui. Il y avait Proust qui avait beaucoup écrit sur sa mère, bien entendu. Et puis, les Marx Brothers m'avaient vraiment intéressée parce que c'est elle qui a décidé que leur fils ferait du théâtre et c'est vraiment sa décision. Il ne serait pas du tout connu sans elle. On peut estimer qu'Einstein serait devenu un génie sans sa mère, mais les Marx Brothers ne seraient pas devenus ce qu'ils sont sans leur mère. Donc, et puis à un moment donné, je me suis dit, Freud ne peut pas ne pas être là. C'est lui l'inventeur d'Oedipe, il faut absolument que je me documente. Et puis une documentation passe à une autre, je me suis perdue dans la documentation, donc j'ai dû la réduire finalement pour en faire ce roman. Voilà, parce que je ne voulais pas en faire un essai, je voulais qu'on rie un peu avec ses mères, qu'on puisse s'amuser de ce sujet.
Et c'est le cas, hein. On lit votre livre d'une traite, parce que finalement, on est en empathie avec la maman mourante, enfin la maman qui vient de mourir de ce jeune Nathan et qui s'inquiète. Et puis aussi, votre livre, par la forme romanesque, permet de vraiment avoir envie d'aller revoir des films de Woody Allen, de relire le livre de ma mère d'Albert Cohen et d'autres livres. Alors, c'était ça un des objectifs aussi ? Donner envie
oui,
de lire.
C'est-à-dire que, en même temps, on n'est pas obligé d'avoir lu les livres pour lire mon livre, puisque je décris ce qu'ils racontent dans leurs livres. Et évidemment, si on relit en vrai les textes, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est très très amusant. Oui, j'aime bien m'emparer comme ça. J'ai essayé d'incarner ces mères et qu'elles fassent, qu'elles commentent, parce que au fond, elles sont mortes. La mère Jeanne Proust est morte avant que son fils n'écrive à la recherche du temps perdu. Mais qu'aurait-il dit de ce texte si elle avait été vivante? Elle aurait été tellement fière. Donc j'ai voulu la ressusciter, les autres aussi, pour faire qu'elle puisse parler, parce que dans mon paradis, elles ont accès à une bibliothèque et donc elles suivent tout ce qu'on a pu écrire sur leur fils une fois qu'elle n'était plus là et faire que, je veux dire, le titre « Les mères juives ne meurent jamais », c'est à la fois parce qu'elles vivent dans ce paradis, mais en même temps parce qu'elles vivent à travers les écrits de leur fils.
Et pour vous, ça a dû être un travail extrêmement jubilatoire d'imaginer ces mères avec toute la liberté que vous offre le fait de les avoir placées dans le paradis.
Et dans un roman où je peux effectivement les interpréter. Oui, ça m'a beaucoup amusée en réalité de faire ces dialogues entre ces différentes mères avec leurs différentes personnalités, car elles ne se ressemblent en rien en réalité. Madame Proust était extraordinairement élégante, très cultivée, alors que la mère de Cohen venait de Corfou dans un tout petit île et est arrivé à Marseille très très perdu, exilé, n'ayant que son fils pour exister.
Les rapports entre Albert Cohen, dont on connaît tous le livre de ma mère, et puis Solal, ce personnage, les rapports entre lui et sa mère sont des rapports qui ont l'air d'être extrêmement tendus et extrêmement attristants pour sa mère. Elle est en quelque sorte déçue du fait de ne pas être plus aimée que par son fils qu'on ne pourrait le penser.
En fait, j'étais moi-même étonnée, parce que quand on lit le livre de ma mère, on trouve que c'est un livre, à la première lecture, j'ai trouvé que c'était un livre admirable. Et à force de le relire et de l'étudier, je me suis dit, mais au fond, il est très condescendant, il a presque honte de cette mère qui est trop aimante, qui l'attend, qui le regarde avec des yeux d'amoureuse. Et il en a assez. Et il y a cet exemple qu'il donne à un moment donné, elle est très inquiète car il ne rentre pas d'un dîner. Et elle va appeler la personne chez qui il dînait, elle a un accent étranger, et il a honte, il l'engueule en disant « Mais pourquoi tu m'as appelé là? Tu n'aurais pas dû, reste à ta place. » Et je me suis dit que ce n'était pas très gentil, en fait. Il n'était pas forcément très gentil. Et tout ce livre est pour s'excuser du fait qu'il n'ait pas été assez présent du temps de son vivant. Il dit « Prenez garde les autres fils, soyez gentils avec votre mère car elle va mourir. »
D'une certaine manière, il a le même rapport que pour avoir un adolescent avec la mère quand il est en présence d'autres adolescents. Mais ce n'est pas un rapport d'un adulte avec sa mère.
Mais aucun n'est un adulte. Hein. Proust dit « Pour ma mère, j'aurai toujours 4 ans » et eux-mêmes ont 4 ans avec leur mère. C'est-à-dire qu'ils ne s'en dégagent jamais. Ils ne deviennent pas adultes. Ils restent les enfants attendant d'être nourris, dorlotés, cajolés. Mais ils lui en veulent, comme vous dites, un adolescent. On veut à sa mère de trop le protéger, de s'inquiéter pour lui. Il y a ces lettres de Jeanne Proust à son fils, incroyables, qu'elle demande à quelle heure il a dîné, à quelle heure il est sorti, à quelle heure il a rentré. Il a 35 ans, enfin, normalement c'est fini.
Oui. Alors, sur le sentiment de la honte que vous évoquez, on le ressent aussi chez Freud lorsque il reçoit un prix ou il est dans une réunion publique, et puis sa mère entre et dit « Je suis sa mère ». Et ça crée un sentiment de honte vraiment impossible à gérer pour Sigmund Freud.
Mais oui, parce qu'elle est tellement fière. « C'est mon fils, il a réussi, elle n'en peut plus de bonheur. » Et lui, n'en peut plus. Il trouve que cette vieille dame n'a pas sa place et il se prend beaucoup plus au sérieux, donc voilà.
Alors votre livre est aussi, et on pense en le lisant que vous avez dû bien vous amuser en l'écrivant, oui. Est aussi un florilège de citations et d'histoires juives, comme on les appelle. Alors c'est vraiment un, 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 un régal de lire en tête de chapitre les citations que vous mettez des fils de vos personnages féminins.
Oui, oui, il y a un mélange de citations des textes et puis de proverbes juifs. Par exemple, Dieu a inventé les mères juives car il n'avait pas le temps de tout faire, voilà. Ce que je trouve assez bien.
C'est vrai que c'est une définition qui dit tout. Il y en avait aussi une autre histoire juive qui m'a beaucoup amusé, qui est une mère juive qui a deux enfants de 4 et 6 ans, et puis on invite un des garçons, et puis elle répond, lequel, le médecin ou l'avocat ?
Oui, ça c'est une histoire assez inouïe, parce qu'elle a décidé d'avance que feraient leurs fils. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont aucune espèce de liberté. Ce qui est fantastique dans cette histoire-là, et dans toutes ces mères, c'est qu'elles ont réussi à ce que leurs fils fassent exactement ce qu'elle avait programmé pour eux. Hein, les enfants sont programmés. Alors, est-ce que c'est la caractéristique des mères juives ? Peut-être que oui.
Quelle est la mère parmi celles que vous avez citées qui vous a le plus émue et celle qui vous a le plus surpris ?
Surpris, c'est la mère des Marx Brothers, parce que cette détermination incroyable, alors qu'il n'était absolument pas acteur d'aller voir les impresarios à Chicago, partout. Ils finissent à Broadway, c'est un succès considérable. Et c'est elle qui, seule, a décidé qu'il deviendrait célèbre, m'a épatée. Celle qui m'a le plus émue est probablement Madame Proust, parce qu'elle est déchirante d'adoration,
Est-ce qu'il y a des personnages auxquels vous avez pensé pour les inclure dans ce roman et auquel vous avez renoncé?
Oui, j'avais pensé à Karl Marx. Ah oui. Mais il détestait sa mère. Donc, au fond, j'ai pris que des fils qui aimaient, où il y avait un rapport d'amour quand même. Même si on veut s'en débarrasser, la tuer par exaspération, ils l'aimaient vraiment. Ils ne parlent que d'elle, ils sont omnubilés par leur mère, ils ne peuvent pas s'en décoller. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas une vie amoureuse très satisfaisante. Aucun d'eux, hein. On ne remplace pas sa mère, elle est celle qui compte. Ou si on a une maîtresse, tous ont eu des maîtresses plus âgées, hein, pour retrouver ce rôle maternel qu'ils aimaient tant.
C'est vrai que les mères juives ont quand même, et à nouveau on dit dans mères juives, ça peut être des pères aussi.
Ça peut être des pères aussi.
Alors Nathalie Devitoil, ma dernière question porterait sur vous-même. Vous êtes scénariste, est-ce que en écrivant ce roman, vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être la matière à faire une adaptation, soit en radio, soit en télévision, soit en docu-fiction?
Au départ, ça devait être un docu-fiction. Et en fait, ça n'a pas été accepté. Et comme j'avais commencé à faire toutes ces recherches, je me suis dit, autant en faire un livre, parce que le sujet m'amuse énormément. Et donc, c'est comme ça. Mais maintenant, je trouve que c'est une pièce de théâtre, beaucoup plus qu'un film. Parce qu'on les voit. C'est des dialogues incroyables. En tout cas, j'ai essayé de les rendre.
Ah non, c'est vrai. Vraiment, on lit ce livre avec autant de jubilation, je le répète, que celle que vous avez sans doute dû éprouver en l'écrivant. Et en plus, on ne le lâche pas à aucun moment.
Ah, c'est gentil.
Voilà, alors, Nathalie Devitoil, je rappelle le titre de votre roman. C'est votre premier roman, je crois.
Oui, tout à fait, c'est mon premier roman.
Donc, de ce premier roman, Les mères juives ne meurent jamais, et ça nous permet de découvrir les mamans de Freud, de Proust, d'Einstein, de Romain Gary, de Woody Allen, d'Albert Cohen et des frères de Marx Brothers. Et ça donne aussi, et peut-être surtout aussi, envie d'aller replonger dans l'œuvre de ces grandes personnalités du siècle passé, du siècle précédent. Merci Nathalie Devitoil.
Merci beaucoup.
Les rencontres d'Edmond Morel.